Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 15h en temps universel, 16h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Le Qatar jette l'éponge et annonce mettre fin à sa médiation entre Israël et le Hamas pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 26 morts au Pakistan dans un attentat revendiqué par des séparatistes du Baloutchistan qui ciblait l'armée pakistanaise, mais de nombreux civils ont été tués. Également dans ce journal, l'étrange conversation téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le milliardaire Elon Musk était à côté du président élu et il s'est même emparé du combiné. Dans 10 minutes, après ce journal, vous retrouverez tous les cinémas du monde avec un doyen du cinéma français, Claude Lelouch. C'est un coup de théâtre après plus d'un an de guerre dans la bande de Gaza. Le Qatar annonce mettre un terme à sa médiation entre Israël et le Hamas pour parvenir à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Des mois et des mois de médiation sans aucun résultat, une source diplomatique citée par l'agence France-Presse dénonce la mauvaise foi tant d'Israël que du Hamas. Le bureau du mouvement islamiste palestinien au Qatar n'a plus sa raison d'être, dit encore cette source. Mais un responsable du Hamas précise que son mouvement n'a reçu aucune demande de quitter le Qatar. On va maintenant revenir dans ce journal sur une loi votée jeudi par le Parlement israélien et qui suscite la controverse à l'avenir. Le gouvernement israélien va pouvoir expulser vers la bande de Gaza tous les proches parents d'auteurs d'attaques terroristes. Nicolas Falaise.
La nouvelle loi israélienne vise les membres de la famille des auteurs d'attaques terroristes. Seront expulsables vers la bande de Gaza les parents proches s'ils étaient au courant à l'avance des projets d'attentat et s'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour les empêcher. Seront également visés ceux qui expriment leur soutien au terrorisme, des éloges, des encouragements, toujours parmi les parents proches d'auteurs d'attaques anti-israéliennes. Le texte de loi a été élaboré par le parti Force juive du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, dont la formation suprémaciste est membre de la coalition de gouvernement en Israël. La législation vise en premier lieu les Palestiniens ayant la nationalité israélienne, ainsi que les Palestiniens de Jérusalem. Les premiers pourraient être expulsés vers Gaza pour une durée de 7 à 15 ans, et les seconds pour une période de 10 à 20 ans. Une association de défense des droits humains dénonce une punition collective et un renforcement du système juridique à deux vitesses en Israël.
Et dans la bande de Gaza, le dernier des comptes des victimes de la guerre que mène Israël, 44 morts de plus en 24 heures selon le ministère de la Santé du Hamas. La défense civile palestinienne précise que deux frappes israéliennes sur une école et un village de tentes ont tué cette nuit 14 personnes. Bilan aussi des dernières frappes israéliennes, cette fois sur le Liban, 7 morts et 46 blessés selon un bilan révisé à la hausse par le ministère de la Santé libanais après des tirs sur la ville de Tyr dans le sud du Liban. Au Pakistan, 26 morts et une soixantaine de blessés, à la fois des civils et des militaires, dans l'explosion d'une bombe sur un quai de gare à Quetta. Attentat revendiqué par les séparatistes du Baloutchistan. Correspondance de Sonia Ghezali.
Il était environ 8h25 ce matin lorsqu'un kamikaze a déclenché sa charge sur le quai de la gare de Quetta. Des dizaines de passagers attendaient leur train lorsque la détonation a retenti. Cette attaque survient une semaine après l'explosion d'une bombe visant une voiture de police près d'une école de filles d'un hôpital dans le district de Mastung, au Baloutchistan. 8 personnes ont été tuées, dont 5 enfants. L'armée de libération du Baloutchistan a revendiqué l'attaque de ce matin. Le groupe séparatiste armé a intensifié ses attaques au cours de ces deux dernières années. Ses militants réclament réclame l'indépendance de la province du Baloutchistan, région la plus pauvre du Pakistan, bien que son sol regorge de réserves d'or, de cuivre et de gaz. La BLA s'en prend généralement aux forces de sécurité et aux représentants de l'État, ainsi qu'aux ressortissants chinois, la Chine ayant investi d'importantes sommes dans la province ouverte sur la mer d'Arabie. Le Pakistan connaît une recrudescence des violences au Baloutchistan et dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan. L'année dernière, plus de 1500 personnes ont été tuées dans près de 800 attaques perpétrées à travers le pays. Il s'agit du plus lourd bilan enregistré depuis 6 ans. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Une nouvelle réaction à l'élection de Donald Trump lors de la présidentielle de mardi aux États-Unis. Réaction du Kényan Raila Odinga, 79 ans, et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le continent africain, dit-il, a d'autres amis que Donald Trump s'il ne veut pas travailler avec l'Afrique. Le chef de la diplomatie du Burkina Faso, de son côté, affirme que la coopération avec la Russie est ce qui convient le mieux à la population burkinabé. Une déclaration faite en marge d'une conférence ministérielle Russie-Afrique qui se déroule à Sotchi en Russie. Et le Rwanda, toujours à Sotchi, de son côté, fait savoir qu'il comptait sur la Russie pour la formation de spécialistes dans le domaine de l'énergie nucléaire. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche rabat les cartes sur la scène diplomatique mondiale avec notamment des interrogations sur la poursuite de l'énorme soutien financier des États-Unis à l'Ukraine. Et lors d'une conversation au téléphone cette semaine entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a eu la surprise d'entendre Elon Musk, le milliardaire qui s'est investi pour l'élection du candidat républicain. RFI Washington, Guillaume Nodin.
L'influence est parfois simple comme un coup de fil, comme celui entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'était mercredi, et alors qu'il parlait de leur future collaboration et de la guerre, qu'il a promis d'arrêter rapidement, Donald Trump lui a passé Elon Musk. Il est le patron de Starlink, la société qui fournit l'internet par satellite à l'armée ukrainienne, et il a déjà menacé de le couper par le passé. Cette fois apparemment pas de menace, mais cela en dit long sur l'importance d'Elon Musk dans le dispositif Trump, au-delà de son élection dans laquelle il a investi plus de 100 millions de dollars. Selon le New York Times, le milliardaire a suggéré l'embauche par l'État fédéral, y compris au sein du ministère de la Défense, de plusieurs hauts responsables de sa société de lanceurs spatiaux SpaceX, dont l'un des plus gros clients est justement l'armée américaine. Donald Trump a déjà promis à Elon Musk une mission pour étudier des pistes d'économie dans le budget fédéral. Là aussi, il est impliqué, puisque plusieurs de ses sociétés en bénéficient. Ce ne seront donc certainement pas les coupes qu'il suggérera en priorité. La bourse ne s'y est pas trompée. Depuis la victoire de Donald Trump, la valeur des sociétés d'Elon Musk a grimpé et sa fortune personnelle a augmenté de 20 milliards de dollars en quelques heures. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'élection de Donald Trump aura-t-elle aussi des impacts sur le monde médiatique? Un site, Internet en particulier, suscite des convoitises, tant d'ailleurs de la part des partisans de Donald Trump que de ses adversaires. C'est Infowars, un site complotiste qui avait soutenu la candidature de Donald Trump en 2016. Aujourd'hui, il est à vendre pour indemniser les victimes de son prédicateur Alex Jones, condamné à une amende record de plus d'un milliard de dollars. Nathanaël Vitran. We're gonna beat these people.
Cet homme qui pleurniche, c'est Alex Jones. N'ayez pas trop pitié de lui. Il a fait fortune en propageant pendant 25 ans des mensonges sur Internet. Il a notamment contribué au harcèlement des familles de l'école primaire de Sandy Hook en prétendant que le massacre de 26 personnes en 2012, dont une vingtaine d'enfants, était une invention. Les familles ont gagné le procès qu'elles lui ont intenté, mais à ce jour n'ont pas reçu un seul centime de dommages et intérêts. Alex Jones a finalement accepté au début de l'été de se placer en faillite personnelle, de vendre son empire des fake news, d'où les larmes de crocodile. La victoire de Trump pourrait toutefois rebattre les cartes. Your reputation's amazing. I will not let you down. Votre réputation est excellente. Je ne vous laisserai pas tomber, lui avait promis Donald Trump moins d'un an avant d'être élu. Ses alliés, en tout cas, ne l'ont pas oublié. Roger Stone, ami et conseiller de Trump, condamné à 3 ans de prison dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne de 2016. Roger Stone pourrait racheter Infowars et laisser Alex Jones aux commandes. À l'inverse, plusieurs patrons de médias progressistes ont aussi exprimé leur intérêt pour, pourquoi pas, transformer Infowars en outil de lutte contre la désinformation.
L'avenir est sombre pour l'économie française selon les dernières déclarations du ministre de l'Industrie qui annonce des fermetures de sites dans les prochaines semaines et les prochains mois et ça se paiera en milliers d'emplois. RFI 16h10 à Paris, fin de ce journal. Dans un instant, tous les cinémas du monde avec Claude Lelouch en invité.